Je pense que ça m'a donné profondément confiance en la vie. Encore plus qu'avant. Je pense pas que je manquais beaucoup de confiance, mais alors là, vraiment, je me suis dit qu'elle était vraiment cool.
Bonjour et bienvenue sur De Vraie Vie, le podcast des voyageuses qui osent. Je suis Anastasia De Santis et toutes les deux semaines, je vous invite à prendre un siège pour écouter ma conversation avec une femme inspirante sur son parcours de vie, mêlant développement personnel et voyage. Avant de vous parler de l'épisode du jour, je voudrais vous parler d'un podcast qui fait du bien. Et ça tombe très bien parce que ce podcast, c'est le podcast animé par mon invité du jour, Herveline. Ce podcast, c'est La Petite Voix. Dans La Petite Voix, Herveline vous emmène rencontrer ceux et celles qui font du bien. Ces thérapeutes alternatifs qui ont choisi d'aider les autres. Coach santé, sophrologue, psychologue, magnétiseur ou bien thérapeute qui communique avec les animaux ou encore les morts, Herveline aborde avec ses invités différentes façons de prendre soin de soi. Vous le savez, si vous écoutez ce podcast, quand on entame une reconversion, un changement de vie, c'est très difficile de ne pas passer par l'étape développement personnel. Mais quand on n'y comprend rien, quand on n'y a jamais mis les pieds, par quoi commencer? En écoutant ces conversations bienveillantes, on plonge dans cet univers particulier et forcément, on accroche tout de suite. Si j'ai souhaité inviter Herveline dans De Vraie Vie, c'est après avoir découvert son parcours grâce à La Petite Voix. Dans ces épisodes, je la trouvais très douce, très à l'écoute, on a vraiment envie de la connaître, d'en savoir plus sur elle, et bien je n'ai pas été déçue. Herveline est dans la vie comme dans son podcast, elle a la capacité de transmettre quelque chose grâce à son histoire. Et son histoire, justement, elle m'a beaucoup touchée. Herveline était en pleine préparation de son expatriation en Nouvelle-Zélande avec toute sa famille, quand elle découvre qu'elle est atteinte d'un cancer du sein. Le projet expatriation est forcément décalé, mais il lui permet de tenir. De cette épreuve, on est sorti beaucoup d'enseignements, de jolies choses, dont un projet, la création de son podcast. Un an plus tard, Herveline et sa famille s'expatrient en Nouvelle-Zélande, où ils habitent actuellement. Alors malheureusement, depuis l'enregistrement de cet épisode, Herveline a appris que son poste en Nouvelle-Zélande a dû être supprimé à cause de la crise du Covid, et donc elle est en pleine recherche d'un emploi pour pouvoir rester en Nouvelle-Zélande. Je lui envoie toutes mes ondes positives pour qu'elle trouve rapidement, et je vous invite donc à faire de même. En attendant, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Herveline.
Bonjour Anastasia.
Merci d'avoir accepté mon invitation pour témoigner.
Je t'en prie.
Je suis vraiment ravie de te recevoir donc dans De Vraie Vie.
Et je suis ravie d'être là.
Oui, entre podcasteuses, n'est-ce pas? Du coup, tu habites aujourd'hui en Nouvelle-Zélande avec ta famille depuis septembre.
Absolument.
2019, et tu travailles dans une agence de voyage qui aide les Français à s'expatrier en Nouvelle-Zélande.
En tout cas, à venir voyager. Ça peut leur donner le goût de s'expatrier après, ouais.
Ah, d'accord. Oui, c'est par étapes, effectivement. Et donc, on a pu échanger grâce au podcast.
Ouais.
Et quand tu m'as raconté ton parcours, je me suis rendu compte que le voyage y était bien présent.
Ouais, carrément.
Et donc, on va parler de ça aujourd'hui, puisque
ouais,
c'est le thème de ce podcast, n'est-ce pas?
Eh ben alors, c'est une bonne idée de parler de voyage, alors.
Donc, c'est parti. Donc, tu es née à Nantes,
ouais.
Tu as fait des études de communication à Paris et tu vas commencer ta vie professionnelle à Paris. Tu vas travailler 6 ans comme attachée de presse, puis l'entreprise ferme et tu es licenciée. Tu vas en profiter pour quitter Paris et partir voyager, mais quelle riche idée,
n'est-ce pas?
Donc là, on est au début des années 2000, si je ne me trompe pas.
Absolument, merci de me rajeunir tout d'un coup, tu vois. Ouais, ouais, j'ai quitté Paris
en
2004.
C'est ça, non mais... Alors, effectivement, moi en 2004, je ne vais pas calculer quel âge j'avais, mais
non,
voilà.
Non, s'il te plaît, encore... ne me dis pas.
Ne fais pas ça. Mais je ne sais pas, j'ai un peu du mal à imaginer. J'ai l'impression que le voyage était peut-être un peu moins démocratisé à l'époque et que c'était un peu moins normal de partir en voyage. C'était un petit peu moins quelque chose qui se faisait, on va dire. Pourquoi est-ce que tu t'es dit « je vais partir en voyage » et pourquoi ne pas avoir recherché un nouveau travail?
Pour plusieurs raisons, en fait. La première, c'est que vraiment, ma dernière expérience professionnelle m'avait dégoûtée un peu du monde de l'entreprise et qu'il était... Il était temps que je fasse un gros break, voilà. Ensuite, moi, j'ai toujours aimé voyager. J'ai toujours eu ça, en fait. Je sais pas comment ça s'explique. Alors, Je peux dire en partie, certainement, ça vient de mes parents qui m'ont fait voyager très jeune. On partait avec la BX, on partait en voiture, on est allé en Grèce, en Yougoslavie. C'était des petits voyages en Europe, mais je pense que ça m'a vraiment donné ce goût-là. Et même à l'époque où je vivais à Paris, c'était quand j'avais une vingtaine d'années, déjà j'avais envie de voyager. J'étais très attirée à l'époque par l'Afrique, donc j'avais fait un premier voyage au Burkina Faso. En fait, j'avais envie de trucs un peu hors des sentiers battus. À l'époque, j'étais parisienne, je bossais à la Défense et tout ça, et je pense que ces voyages-là, ils m'étaient nécessaires pour avoir une bouffée d'air et puis peut-être un contact avec la vraie vie, pour faire référence à ton podcast. Et du coup, quand après cette expérience, cette dernière expérience pro, ça s'était mal passé, et vraiment, j'avais qu'une envie, c'était de claquer la porte, je me suis dit que c'était le moment ou jamais de vivre une expérience à l'étranger, parce qu'en fait, après mes études de communication à Paris, je voulais partir à l'étranger vivre, sauf que j'ai rapidement trouvé du boulot. Donc je ne m'en plains pas, c'était génial, mais j'avais toujours eu cette frustration-là de pas avoir vécu à l'étranger. Donc là, c'était le moment ou jamais. Donc j'ai tout lâché à Paris, j'y suis jamais revenue, en tout cas pas autrement qu'en tant que touriste. Et j'ai d'abord fait un break de 3 mois en Afrique, très roots. J'ai rejoint le frère d'une amie, on se connaissait à peine, mais on a voyagé pendant 3 mois du Zimbabwe à la Tanzanie, pardon. Et puis après, je suis partie pendant 6 mois à Cardiff, au Pays de Galles. Et là, c'était 6 mois. Alors, il y avait un objectif officiel qui était vrai, d'ailleurs, de reprendre un peu des études d'anglais pour avoir une jolie ligne à mettre sur mon CV en anglais. Mais en réalité, c'était aussi pour vivre un peu une vie d'étudiante, et c'est ce qui s'est passé. J'ai bien rigolé à Cardiff. Et j'y suis allée avec une amie, une pote française.
Du coup, cette amie t'a entraînée en Nouvelle-Zélande et en Australie pour continuer le voyage. Avant de partir, tu t'es dit « Ok, je fais ce voyage et puis après, je rentre dans le rang ».
Absolument, ouais. En fait, alors moi, il m'en faut peu pour me donner envie de partir en voyage, et Romain n'arrêtait pas de me parler de la Nouvelle-Zélande. Et franchement, moi, j'avais aucun avis sur le sujet, mais je trouvais ça assez tentant de partir comme ça au bout du monde. On était sur notre lancée, et puis on s'est dit, quitte à partir en Nouvelle-Zélande, tu fais aussi un crochet par l'Australie, parce qu'après tout, une fois qu'on est là-bas, on visite un petit peu toute la région. Et donc, ouais, on est parti 3 mois en Nouvelle-Zélande.
D'accord.
Et en Australie, à l'époque, il y avait déjà les premiers visas vacances-travail. Mais à ce moment-là, nous, on partait vraiment en optique juste profiter et voyager. Et donc, on a commencé par 1 mois en Nouvelle-Zélande. Et franchement, assez vite, il y a eu cet effet quand même waouh. On sait que la Nouvelle-Zélande, c'est un beau pays. Enfin, je veux dire, quand on en parle, c'est la première chose qui nous vient à l'esprit. Mais vraiment, entre le savoir et le voir et le vivre, c'est quand même un pays dingue, qui est pas très grand, mais tu peux passer d'une journée à l'autre à des paysages incroyables, je sais pas, d'une forêt luxuriante à une plage hyper sauvage, à des montagnes, à des fjords, enfin, tu en prends plein les yeux tout le temps. Et l'autre truc, moi, qui m'a vraiment charmée en Nouvelle-Zélande, et ça, pour le coup, je m'y attendais pas, contrairement au paysage, c'est que les gens, les Kiwis, sont juste extraordinaires, quoi. Je sais pas si c'est le fait d'être au bout du monde, un peu isolé. Ils sont quand même super cool, super accueillants. Par exemple, là, pendant ce mois en Nouvelle-Zélande, on s'est fait prêter une voiture pendant 1 mois. Voilà.
Ah oui.
On a, ouais, tu vois.
Comment ça s'est fait?
Eh bien, en fait, on avait un colocataire à Cardiff qui était Kiwi, et sa mère, qu'on avait croisée parce qu'elle était venue en vacances à Cardiff, nous avait dit, vous me contactez lorsque vous arriverez à Auckland. Et en fait, elle a fait plus que s'occuper de nous. Enfin, c'était vraiment une maman. Elle nous a accueillis chez elle à Auckland. Elle a demandé à son fils garagiste de nous trouver cette voiture. Enfin, on a été pris en charge. Voilà. Et c'est vraiment à l'image des Kiwis, quoi. Ça, c'est vraiment un truc assez incroyable ici. Et du coup, moi qui étais contente de faire ce voyage-là parce que Romaine m'avait parlé de Nouvelle-Zélande, franchement, c'était une sacrée belle surprise, quoi. En fait, donc encore une fois, pardon, je parle comme une vieille, mais tant pis, je vais assumer. Donc c'était en 2005, et en fait, à l'époque, ça, j'ai l'impression de parler vraiment de jadis, comme dirait mon fils, à l'époque. Voilà, à l'époque, et ben, à l'époque, on n'avait pas de téléphone portable. Et finalement. Je sais pas. Je sais pas ce que c'est que d'être, d'avoir 20 ans et de voyager, d'être français et de voyager en Australie, par exemple, en ce moment. Ouais. Mais ce que je vois, c'est qu'avec le téléphone portable et toutes les applis qui nous permettent d'être tout le temps en contact avec nos proches, je me dis que nous, à l'époque, le fait de n'être pas en contact comme ça, peut-être qu'on vivait l'expérience plus pleinement.
Intensément.
On était en contact quand même parce qu'on allait dans des cybercafés deux ou trois fois par semaine et voilà, on donnait des nouvelles à nos parents, à nos amis, etc. Mais du coup, pendant le voyage, on était que dans le voyage. Et quand on voit ici les petits PVT français, je me dis, c'est évidemment, c'est rassurant, mais je sais pas si tu vis l'expérience aussi pleinement. Voilà. Pardon, je parle comme une vieille, tu vois, qui regrette le bon vieux temps.
Je comprends vraiment ce que tu veux dire. Effectivement, aujourd'hui, avec la... C'est pas la mondialisation, mais si, enfin, tu peux être à l'autre bout du monde très rapidement. Si je prends un vol, demain, je peux y être et je peux revenir deux semaines après. Et il y a d'ailleurs des gens qui font ça, qui font deux semaines en Nouvelle-Zélande, ce que j'ai un peu du mal à comprendre, mais voilà.
Ouais.
Et effectivement, c'est pas... Quand tu pars quand t'as tendance à partir en voyage, même au long cours, où t'es vraiment coupé, t'es vraiment à fond dans le voyage, et effectivement, le fait d'avoir aucune connexion avec ce qui te relie, tes proches, tes amis, tu dois vraiment vivre l'expérience comme un monde à part, quoi. Et puis, on sait bien aussi que le voyage, quand t'es en voyage, le temps passe. Enfin, deux semaines, ça peut être comme quatre mois de vie réelle. Et douce, c'est
pour ça, d'ailleurs, complètement.
Que tu tombes assez amoureux assez rapidement, d'ailleurs, quand t'es en voyage.
Je vois que tu sais de quoi tu parles.
Oui, Effectivement, 10 jours, c'est quoi, c'est
mais oui, parce que toutes les émotions sont bien plus intenses, en fait, quand on est en voyage. Et c'est pour ça, vraiment, pour revenir à cette histoire d'être en communication ou pas avec son pays, vraiment comme ça, de manière permanente, je sais pas... Le fait de couper complètement, il y a aussi quelque chose de presque thérapeutique, tu vois, tu t'affranchis de tout ce que t'as connu avant, de cette, tu sors complètement de ta zone de confort et t'as personne à appeler là tout de suite au moment où t'en as besoin. Et voilà, c'était un truc assez intéressant à vivre. Parce que la coupure était franche, en fait. Pour tout te dire, dans les 3 mois, par exemple, de voyage que j'avais fait en Afrique, ou après les 2 fois 3 mois que j'ai passé en Nouvelle-Zélande, Australie, la seule fois où j'ai eu besoin d'appeler mes parents, parce qu'on communiquait que par email et ça suffisait pour donner des nouvelles, c'est le jour où j'ai sauté en parachute en Australie. Et je sais pas, vraiment les émotions étaient tellement débordantes. Enfin, j'ai eu un shoot d'adrénaline incroyable que
donc,
du
après
coup
le
j'étais
vol.
Contente de les appeler pour leur oui après non je suis sympa non
c'est pas avant
j'ai attendu d'avoir sauté et d'être bien rentrée sur mes deux pieds mais c'est la seule fois en réalité où j'ai eu besoin de les appeler enfin et que j'étais vraiment contente du coup de le faire. Mais si j'avais vécu ce même voyage actuellement, je pense que mes parents, je les aurais au téléphone 3 ou 4 fois par semaine. Enfin, tu vois.
Voilà. Ouais, effectivement.
Pardon, c'était la parenthèse.
Voilà. Vieille. Non, mais très intéressant. Après, rien n'empêche que même aujourd'hui, en faisant un voyage, on décide de se dire, je vais couper WhatsApp ou alors je vais mettre en sourdine. Rien que moi, j'ai fait ça. Alors, je suis pas en voyage, mais rien que mettre en sourdine en fait toutes mes conversations. WhatsApp, Messenger, voilà, parce qu'en fait, on est assailli de messages tout le temps. Et donc là, vu que j'ai tout mis en sourdine, c'est quand moi je décide d'aller consulter les messages que je vais consulter les messages. Donc ça fait moins de voilà. Mais d'ailleurs, quand j'ai rencontré mon copain, lui, il avait un vieux téléphone portable tout pourri et ça lui allait très bien de voyager comme ça, justement parce que c'était quand lui décidait qu'il pouvait donner des nouvelles.
C'est ça.
Effectivement, t'as la famille en face qui est pas toujours contente, mais effectivement, on s'est habitué peut-être à être toujours en contact et à voir toujours des nouvelles des autres.
C'est ça.
Mais voilà, ok. Donc, parenthèse refermons cette parenthèse, mais effectivement très intéressant. Merci de l'avoir souligné. Ton objectif au départ, c'était voilà, de faire ce petit voyage et puis revenir éventuellement en France, chercher du travail. Mais ça ne s'est pas passé comme ça.
Bah, c'est-à-dire, c'est-à-dire qu'entre-temps, donc on fait ce mois en Nouvelle-Zélande, on part ensuite 2 mois en Australie, donc très sympa. Pas du tout le même coup de cœur, mais quand même avec des paysages pareils, des choses qu'on voit, qu'on n'a pas en Europe, etc. Donc vraiment un voyage assez dingue. Et en fait, ce qui se passe et qui n'était pas du tout prévu au programme, c'est qu'à la fin de ce séjour, on arrive à Perth, donc qui est sur la côte ouest, pour les 2 dernières semaines de voyage. Et Romain m'avait dit, j'ai un très bon pote, Nicolas, qui vit là-bas. Il est donc français et il vit avec un coloc australien. Et tu vas voir, ça va être cool, ils vont nous héberger. Le problème, c'est que en l'espace de 2 semaines... on est assez vite tombé amoureux avec Nicolas. Donc je suis rentrée en France comme prévu.
Le bon pote.
Ouais, le bon pote jurassien. Donc je suis rentrée en France comme prévu, mais 2 mois plus tard, j'étais déjà de retour en Australie. Donc
ah oui.
Ouais, donc donc finalement mon vœu de revenir à une vie calme et bien rangée, je l'ai remise à un peu plus tard.
Est-ce que c'était un vœu vraiment ou est-ce que c'était plutôt la pression sociétale qui te faisait te dire que voilà, t'avais voyagé et que maintenant, il fallait travailler? Ou c'était vraiment un souhait?
Non, je crois que j'en avais vraiment envie parce que malgré tout, alors là, c'est vrai, on se parle plutôt de voyager tout ça, mais moi, j'aime bien aussi ces moments où on a une vie un peu posée avec un cadre. Je pense que c'est aussi ce qui fait le charme après des voyages. Parce que justement, on se rend compte que ouais. Ça fait du bien d'avoir un petit souffle de liberté. Mais moi, je me rappelle aussi que parfois en voyage, t'as juste envie d'être chez toi, dans un vrai chez toi, avec un canapé à toi.
C'est vrai.
Voilà. Donc non, j'avais vraiment envie.
C'est très vrai, ouais.
J'avais vraiment envie de revenir à une vie normale. Mais là, pour le coup, enfin, il en était évidemment plus du tout question, quoi.
Et donc, tu vas voyager en van,
ouais.
Donc avec ton futur mari.
Bah, absolument. Alors, on n'est pas mariés, mais en tout cas, mon futur conjoint et futur père de mes enfants. Donc, en fait, ouais, 2 mois plus tard, je reviens à Perth. Et lui, en fait, quand on s'est rencontrés, venait de faire lui aussi un long voyage parce qu'il était arrivé jusqu'à Singapour par la terre, notamment le Transsibérien et tout ça. Mais du coup, il était arrivé quelques mois seulement avant à Perth, mais il n'avait pas visité encore l'Australie. Donc j'ai refait le tour de l'Australie, après l'avoir fait avec cette pote romaine. J'ai fait le tour de l'Australie en van avec
ouais.
Nicolas.
Génial. Et du coup, est-ce qu'à ce moment-là, tu te dis que bah voilà, ça peut être ça, en fait, finalement, ta vie. Donc alterner des moments de où vous êtes posé, des moments de travail, et puis des moments de longs voyages comme ça.
Absolument. En fait, je sentais bien que j'avais besoin des deux. Je n'ai jamais eu envie de faire un choix. Parce que je trouve qu'on peut ne pas le faire. Donc je sentais bien que certainement ma vie elle serait en alternance de périodes de voyage et de périodes à se poser quoi.
Ouais. Donc là vous vous installez en France donc dans le Beaujolais.
Si je... Ouais, près de Lyon.
Près de Lyon exactement. Tout à fait. C'est pas du tout là que je le situais mais d'accord.
J'ai raison de préciser.
Je sais pas pourquoi je pensais que c'était Bordeaux.
Ah, mais parce que tu t'es dit Beaujolais, vin,
ben oui.
Bordeaux. Eh bien non, en Rhône-Alpes aussi, on fait du bon vin.
Ah d'accord, ok, tout c'est clair maintenant. Du coup, tu dis, on aime être revenu à une vie classique, mais on sait que dès que les enfants seront en âge, on repartira certainement pour une expatriation.
Bah oui, mais en même temps, on a vraiment construit un truc là-bas, c'est-à-dire, enfin, tu vois, je sais pas, on a acheté une vieille maison complètement retapée et tout ça. On n'a pas vécu les 10 années, par exemple, qu'on a fait dans cette maison en les faisant avec l'idée d'un truc temporaire. Enfin, je veux dire, on était très très bien, on était vraiment bien. Mais en même temps, comment imaginer que 2 Français qui se sont rencontrés en Australie ne repartiront pas un jour? Enfin, tu vois. Je pense que c'est écrit dans notre histoire et puis dans nos histoires personnelles. C'est-à-dire que chacun, avant que l'on se soit rencontré, on avait déjà beaucoup voyagé. Et notamment pour la parenthèse, parce qu'on en reparlera, Nicolas, lui, il avait vécu 1 an en Nouvelle-Zélande. Donc du coup, on avait... En fait, voilà, c'est... Et quand on a décidé de s'installer pour une vie plus classique dans le Beaujolais, on était vraiment contents de le faire. Enfin, sans aucun, enfin, c'était pas par par défaut ou c'était pas par pression sociale, comme tu le dis. On l'a fait vraiment par envie, mais par contre, je crois qu'on n'a même jamais eu vraiment besoin de se le dire tel quel. C'était assez évident qu'un jour, on repartirait. C'est juste qu'on avait d'autres trucs à vivre avant. Peut-être d'abord de construire une famille, voilà, on a eu des enfants en 2014, on a eu des jumeaux, avoir une famille, avoir une vie pro où on peut un peu se poser et grandir dans nos vies pro, etc. Tu vois, donc c'est juste une question de temps. On savait que ça viendrait, mais c'était pas le moment, quoi, et c'était pas grave.
Ouais, tout à fait. C'est vrai que alors, je refais une parenthèse sur ma vie.
Ouais, s'il te plaît.
Mais effectivement, là, je suis posée donc dans la région bordelaise, qui n'est pas le Beaujolais, n'est-ce pas, qui n'a rien à voir avec ça, du coup. Mais effectivement, on est posée depuis octobre, et même si le voyage me manque un petit peu, mais je suis très heureuse d'être là, d'être posée. Il y a aussi ce côté, effectivement... t'es chez toi,
ouais.
Puis où tu peux commencer à construire quelque chose, et effectivement, je pense qu'on est toujours partagé. Ça, je le redis souvent, mais c'est l'homme qui est partagé entre l'arbre et la pirogue, quelque chose comme ça.
C'est joli.
Entre être ancré quelque part et en même temps vouloir voyager. Et c'est ça que moi je le sens vraiment beaucoup, qu'on a vraiment ces deux côtés. Et ouais. Tout, c'est d'avoir un bon équilibre, en fait, de réussir à trouver des moments où, effectivement, on s'ancre quelque part, et puis des moments où on arrive à voyager.
C'est exactement ça. Du coup, je pense que les deux peuvent convenir dans une vie. On peut à la fois vouloir être posé et à la fois rêver de grands voyages. En fait, la vie est assez longue pour pouvoir tout faire. C'est juste, en fait, c'est une question de temporalité, quoi. Il y a un moment pour tout.
J'aime beaucoup cette phrase. Et donc finalement, 4 ans plus tard, c'est décidé, vous allez partir, donc vous expatrier en Nouvelle-Zélande. Mais à ce moment-là, donc tout ne se passe pas comme prévu. Est-ce que tu peux nous expliquer ?
Pas tout à fait. Ouais, pas tout à fait. Donc effectivement, en début d'année 2018, là nos enfants, ils avaient déjà 3 ans et demi, donc on se disait qu'ils commençaient à avoir le bon âge pour qu'on puisse partir. Ils commençaient à être un petit peu plus autonomes. On avait passé la période un peu chaude des 3 premières années avec des jumeaux, donc ça commençait à devenir envisageable. Et donc on commence à se dire ok, c'était en début d'année 2018, on se dit ok, on se donne là comme objectif de partir à la rentrée prochaine, en septembre. Et mais la destination en réalité était pas encore très nette. On savait juste qu'on voulait partir. La Nouvelle-Zélande a toujours été un truc évidemment très présent parce que on a tous les deux aimé cette destination, mais c'était pas sûr que ce soit la Nouvelle-Zélande.
D'accord.
Bref, donc en tout cas,
c'était une expatriation. C'était pas un voyage.
On voulait partir. Ouais. Non, c'était pas un voyage. On voulait partir. Et donc on commence à mettre un peu le truc en route en se disant on fait un check-up, mais chacun, tu vois, pour être sûr, au moins tu règles les détails médicaux avant de partir. Sauf qu'en matière de détails, c'était un peu plus qu'un détail à régler, puisque la mammographie que j'ai faite grâce à ce projet-là a révélé que j'avais un cancer du sein. Et donc là, évidemment, ça a un peu reporté le projet. On s'est dit, en revanche... et ça, pour moi, ça a été hyper important. Après, toute l'année 2018 a été une année pour moi de traitement. Et ça m'a vraiment aidé énormément de savoir qu'au bout de ça, on partait. En fait, Nicolas me disait souvent, écoute, tu vois, c'est un tunnel dans lequel on va passer, c'est pas cool, on va pas passer des bons moments, mais tu sais qu'à la fin de ça, il y a autre chose qui nous attend, voilà. En fait, il y avait pas que la maladie, puisqu'après, on avait déjà des perspectives pour après. Et donc ça, c'était génial.
Et d'avoir ce projet de voyage, tu penses que justement, ça t'a aidé dans ta guérison ?
Mais bien sûr, parce qu'en fait, c'est vraiment une idée de perspective. C'est-à-dire que plutôt que de n'être que en train de vivre la maladie et les traitements parfois pas cool, bien sûr que ça faisait partie toute cette année-là de mon quotidien. Mais en fait, je savais que il y avait pas que ça. Et ça, c'est un truc aussi, je trouve, que moi j'ai beaucoup appris avec les voyages, et dans certaines situations pas cool, ça aide vraiment. C'est juste, tu fais un peu comme sur une carte du monde, tu fais un gros dézoom, quoi. Parce que évidemment, si tu prends juste l'instant T là, c'est pas cool, tu vois. Je sais pas, t'es en chimio pour un cancer du sein à 40 ans, c'est pas hyper cool. Mais c'est pas grave, parce que si tu dézooms, en fait, tu sais que normalement, dans 6 mois, t'as fini les traitements, et que du coup, dans 7 mois, tu pars à l'étranger. Voilà, il y a une espèce de truc de remise en perspective. Donc, ce projet de voyage-là, bien sûr, il a été hyper important dans le processus de guérison.
Qu'est-ce que ces épreuves peuvent nous apprendre, en fait, alors, sur nous-mêmes, sur le monde qui nous entoure? Qu'est-ce que ça t'a appris, toi?
Waouh, quelle question.
T'as vu ça?
Alors ça, c'est toujours une question délicate. Ce qui est drôle dans la question que tu me poses, mais pas que toi, c'est-à-dire tout la manière quand tu dis que tu as eu un cancer, t'es tout d'un coup auréolé d'un truc, tu vois, comme si t'avais traversé un truc de dingue.
Ouais.
Ce qui est pas complètement faux,
oui.
Mais en réalité, oui, bien sûr, dans ces moments-là, ben quand même, tu penses à la mort. Enfin, je dirais, c'est difficile de faire autrement avec le nom de cette maladie qui est aussi horrible, quoi, et qui renvoie évidemment à la mort. Mais je pense que ça m'a donné profondément confiance en la vie, encore plus qu'avant. Je pense pas que je manquais beaucoup de confiance, mais alors là, vraiment, je me suis dit qu'elle était vraiment cool et que. C'est paradoxal vu ce que je suis en train de te raconter, mais que tout ce qui nous arrivait, ça avait vraiment du sens. Et que plus on était capable d'accueillir ce qui nous tombait dessus, même des trucs comme ça, plus on accueillait et plus on pouvait vraiment en faire quelque chose. Et moi, j'ai eu la chance, parce que j'ai été bien accompagnée pendant tous ces traitements-là, j'ai eu la chance de pouvoir vraiment accueillir ça. Voilà. Et donc je l'ai vécu pleinement, alors avec beaucoup de larmes, beaucoup de peurs, beaucoup de doutes, beaucoup de trucs pas sympas, mais avec aussi tellement de bons moments. Et je sais, c'est bizarre de dire ça parce que je te parle d'un cancer, j'ai été opérée 2 fois, j'ai eu de la chimiothérapie, de la radiothérapie, c'est pas fun. J'ai perdu mes cheveux et tout ça, mais je sais pas, j'ai eu aussi cette année-là tellement de temps pour moi. Et que ce qui est quand même rare quand on est quand on bosse, quand on a des enfants, là tout d'un coup je me retrouvais avec que du temps pour moi et je pouvais en profiter sans culpabiliser. Donc j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup marché dans mes vignes du Beaujolais au nord de Lyon. j'ai écrit, c'est à cette époque-là que j'ai écouté énormément de podcasts. J'ai médité. En fait, j'ai pris soin de moi comme jamais. Et donc cette année-là, elle a été teintée de plein de couleurs parce qu'il y a eu des moments horribles, mais il y a eu tellement de moments extrêmement doux. Quand je repense à cette époque-là, j'y vois quelque chose d'assez doux. Mais encore une fois, parce que j'ai été hyper bien entourée, hyper bien accompagnée et que j'ai pu accueillir ça aussi bien que possible. Ce qui est délicat, tu vois, quand je te dis des choses comme ça, moi je te parle de la manière dont moi je l'ai vécu,
bien sûr.
Mais oui. Je sais aussi combien pour certains, déjà parce qu'il y a autant de cancers que de personnes, oui. Enfin qui l'ont,
oui.
Donc moi j'avais la chance d'avoir un cancer du sein, alors je sais pas, c'est certainement un des cancers qui se soigne le mieux, etc. Donc je savais assez vite que certainement j'allais m'en sortir, donc voilà, c'est quand même plus facile à accepter qu'un cancer plus grave. Et puis, quand je te dis ça, je veux pas rendre le truc trop romantique non plus,
bien
parce
sûr.
Qu'en vrai, ça l'est pas du tout. Et puis, il faut pas non plus culpabiliser quand on est malade aussi d'avoir des moments hyper durs, parce qu'il y a des moments hyper durs. Mais pas que. Voilà, en fait, c'est toujours la même chose. Il y a beaucoup plus de nuances.
Et du coup, avec ce cancer, ça va te permettre aussi de tester des médecines alternatives. Et c'est comme ça donc que tu vas t'y intéresser un petit peu plus et que tu vas avoir l'idée de ton podcast, donc La Petite Voix.
Ouais, absolument. En fait, c'est rigolo. Déjà, enfin, avant d'être malade, moi, je m'intéressais déjà aux thérapies alternatives, tout ce qui est un peu ésotérique, j'adore. Mon homme me disait déjà avant que je connaissais tous les sorciers de la région Rhône-Alpes, donc tu vois, je partais déjà quand même avec un bon background. Mais du coup, moi, le jour où j'ai su que j'étais malade, je me suis tout de suite tournée vers ces gens-là de thérapie alternative, parce que je savais que le monde médical classique allait me soigner, allait enlever cette tumeur et faire que ça irait. Mais je m'attendais pas à ce que le monde médical m'accompagne psychologiquement. Et voilà, je savais que c'était pas là qu'il fallait que j'attende de l'aide. Et franchement, quand je repense à 2-3 de mes médecins, j'ai eu raison. Et par contre, attention, hein, je parle pas des médecins traitants qui sont géniaux, ni des infirmières et tout ça. Je parle des médecins à l'hôpital. Bon, bref, la parenthèse est fermée. Ils m'ont guéri. C'est déjà bien. C'est déjà énorme. Mais par contre, du coup, j'ai trouvé beaucoup de réconfort, effectivement, dans les thérapies alternatives. Ça a été pour moi l'occasion d'en tester encore plus. Et notamment, j'ai deux personnes qui m'ont beaucoup accompagnée. Un astrologue, Jean-Pierre Neveu, qui est un monsieur formidable, qui m'a énormément aidée à ce moment-là. Parce que du coup, comme j'avais du temps pour moi, ben, j'ai décidé de faire une formation en astrologie avec lui. Et magnifique. C'était passionnant. C'était génial. Et ça me permettait, encore une fois, de ne pas être que à réfléchir à la prochaine chimio, etc. Voilà. Au moins, je faisais autre chose de ce temps-là qui m'était donné. Et c'était passionnant. Donc, Jean-Pierre m'a beaucoup aidée. Et Eliane Puvillian, qui est magnétiseuse et qui m'a énormément aidée. Alors, ne me demande pas comment, elle posait ses mains et ça faisait des trucs, ça marchait, voilà. Oui. Et puis tout le temps qu'elle a pris pour parler, pour échanger, et c'était très très enrichissant, quoi. Donc pour moi, ça a été une année en fait où j'ai énormément grandi en fait. Et donc pour revenir à la petite voix dont tu me parlais. Effectivement, en fait, il s'est passé deux choses. C'est que je voyais tous ces thérapeutes alternatifs d'un côté, et de l'autre, j'écoutais énormément de podcasts. Et un jour, ça fait très storytelling, mais ça s'est vraiment passé comme ça. Un matin, j'étais en train de méditer, mon chat était à côté de moi. J'ai eu l'idée de faire un podcast où j'interrogeais ces thérapeutes. Et vraiment, cette idée-là, c'est comme si elle s'était imposée à moi. J'avais pas le choix du tout. Je sais pas comment l'expliquer autrement. Et en plus, moi, j'avais jamais fait ça. Alors, je travaille dans la communication, donc c'est pas complètement éloigné, mais je m'étais retrouvée derrière un micro. Je n'y connaissais rien à l'aspect technique, mais j'étais tellement sûre qu'il fallait que je le fasse que, voilà, je sais pas comment dire, il y avait un truc un peu même pas peur, quoi. En fait, je me posais pas la question. J'ai assez vite acheté un micro et je me suis lancée.
Comment tu décrirais ton podcast, est-ce que tu as un pitch?
Alors le pitch, je dis que c'est La Petite Voix, le podcast qui donne la parole à ceux et celles qui nous font du bien. Voilà. Et en gros, au-delà de ça, en fait, c'est des entretiens donc avec des thérapeutes, le plus souvent alternatifs. Ça peut aller, ça va de la psy à la médium qui communique avec les morts. Voilà. Donc la palette est assez large, ou naturopathe, ostéopathe, et je les interroge beaucoup sur leur parcours parce que et ça vient vraiment de l'expérience que j'ai eue pendant mon cancer du sein et de ces entretiens que j'avais avec les thérapeutes. On devient pas thérapeute par hasard. Ça veut dire qu'il y a un moment où dans ta vie tu t'es posé une question sur le sens de ta vie et pourquoi t'es là. Et c'est pour ça que je trouvais que ces gens-là étaient passionnants et m'apportaient beaucoup. Donc dans mes entretiens, je les interroge sur leur parcours. Et en général, il y en a certains qui sont quand même bien cabossés, mais qui aujourd'hui, je sais pas, sont hyper lumineux. Donc c'est hyper intéressant. Ouais. Et puis je les interroge aussi sur leur pratique. Enfin, ça dépend. Mais tu vois, par exemple, quand t'as en face de toi Valérie qui communique avec les morts. Ça soulève 2-3 questions.
Bien sûr.
Voilà. Mais en fait, ce qui est drôle, et c'est pour ça aussi que je voulais leur donner la parole à ces gens-là, c'est que je trouve qu'en fait, attention, il y a beaucoup de charlatans. Hein. Évidemment, je parle pas de ces gens-là auxquels je veux pas donner la parole. Mais ces vrais thérapeutes-là, ceux pour lesquels il y a un don un peu ésotérique et tout ça, en fait, c'est des gens hyper ancrés. Et du coup, c'est drôle parce que je me disais, mais finalement, ces gens-là qu'on prend pour des fous, ils sont, je trouve, beaucoup plus sains d'esprit, par exemple, que le patron de ma boîte d'avant qui pouvait être hystérique parce que, je sais pas, la couleur du packaging était bleu clair au lieu de bleu un peu plus foncé. Enfin, je veux dire, tu vois, ça, c'est un truc qu'on a tous vécu en entreprise. Et je suis désolée, ces gens-là, ils me paraissent pas hyper bien ancré. Donc, je préfère parler avec une médium qui communique avec les morts, mais qui m'en parle de manière simple et posée, quoi. Ouais. Voilà.
Et bien, écoute, j'ai réécouté cet épisode parce que ça m'a vraiment intriguée.
Ah, il est vraiment chouette. Il est vraiment chouette. Celui-là et d'autres, bien sûr, mais évidemment, celui-ci est le plus ésotérique de tous. Quoi.
Clairement. Et du coup, on va revenir un petit peu sur la suite de ton parcours. Suite à ça, donc un an plus tard, tu es guérie. Pour fêter ça, donc, vous décidez de partir 6 mois en Thaïlande, sur une île, donc Koh Samui, où tu vas du coup en profiter pour lancer ton podcast. Puis en septembre 2019, donc le moment est venu, ça y est, de vous installer. Donc là, vous avez choisi la Nouvelle-Zélande. Comment ça s'est passé justement ce déménagement? Bah, y a eu dans un premier temps la Thaïlande. Puis comment est-ce que ça s'est passé donc, pour trouver une maison, un travail? Quel a été ton quotidien un petit peu depuis que tu es arrivée?
En fait, ce qui s'est passé, c'est que déjà, on est allé en Thaïlande avant de venir en Nouvelle-Zélande parce qu'on n'arrivait pas à choisir, on ne savait pas quelle destination on voulait. En fait, on hésitait. On avait toujours ce truc de la Nouvelle-Zélande. Parfois, on s'interrogeait un peu sur l'Australie. Et puis, la Thaïlande, je sais pas, ça nous tentait. On savait qu'il y avait une école française sur cette île pour nos enfants. Enfin, voilà. Et donc, finalement, comme on n'a pas réussi à choisir, et ben, on s'est dit, c'est pas grave, on va en Thaïlande quelques mois. Et puis, comme
on
ça,
teste,
on fait... on part. Exactement. On teste aussi pour voir comment ça se passe avec les enfants. Et puis, on envisage après la suite. Et puis, donc, finalement, on n'a pas choisi. Et la Nouvelle-Zélande, en fait, ça s'est fait... Mais encore une fois, enfin moi j'ai envie de croire que quand les choses doivent se faire, elles se font. Ça s'est fait très facilement parce que on a trouvé une famille kiwi avec laquelle échanger notre maison. On a échangé, en fait, on a contacté. Il y a un site qui s'appelle Home Exchange qui est vachement bien. Et donc en fait, un jour Nicolas a contacté une centaine de familles kiwi à Auckland et autour d'Auckland en disant bonjour, on est une famille française, on veut venir s'installer en Nouvelle-Zélande. Est-ce que vous êtes prêts à échanger vos maisons pendant un an? Et en fait, contre toute attente, on a eu pas mal de retours. Et parmi tous ces retours, il y avait une famille en particulier qui était assez partante. Et effectivement, on s'est retrouvés donc en septembre dernier à échanger nos maisons. Donc on a accueilli la famille kiwi avec leurs 3 enfants en bas âge. Je crois que ça allait de 6 mois à 5 ans. Ils sont arrivés en septembre. On les a accueillis chez nous pendant 2 jours. Tu vois, le temps de faire un peu connaissance quand même, parce que je veux dire à part beaucoup de mails, des WhatsApp, ouais. Donc en fait, voilà, on a passé 2 jours ensemble. Ça a matché tout de suite. Enfin, nous, on était hyper contents de leur laisser la maison. Et eux, pareil, avaient l'air d'être hyper contents. Enfin, vraiment, nous ont laissé leur maison ici, les yeux fermés. Et du coup, c'est grâce à ça, quand on a trouvé cet échange de maison, du coup, ça nous a permis d'envisager cette vie-là en Nouvelle-Zélande et de nous projeter. Mais clairement, quand on est arrivé en septembre dernier, on était donc tous les 4 avec nos sacs à dos et une grosse valise, mais rien d'autre, quoi. On est vraiment parti un peu à l'arrache, quoi, pour tout dire. Voilà. Parce que tout ce qui est meubles et tout ça, on les a laissés à la famille kiwi. Notre maison du Beaujolais, elle est maintenant sur Airbnb, donc il n'était pas question de tout déménager. Et donc, on est vraiment arrivé la fleur au fusil, quoi.
Et donc là, en ce moment, vous êtes encore dans cette maison? Et eux sont
alors non,
chez vous, ou
non, parce qu'en fait eux, un an c'était trop long pour eux, donc ils sont rentrés fin décembre, donc ça a été un échange qui a duré 4 mois, donc c'était déjà pas mal. En tout cas nous, ça nous a permis d'avoir une base de départ quand on est arrivé ici en Nouvelle-Zélande, et donc on a déménagé chez nous. On est dans notre maison là depuis début janvier, depuis que eux sont rentrés chez eux, et d'ailleurs depuis voilà, c'est des potes, on s'est revus, ils nous ont raconté leur vie, ce qui est quand même dingue, une famille kiwi dans un village de 900 habitants avec les enfants qui vont à l'école et tout ça, c'est génial quoi, c'est des expériences géniales.
C'est dingue de se dire que ça c'est possible aujourd'hui de faire ça, d'échanger les maisons et d'aller vivre dans un autre pays comme ça pour quelques mois, voilà,
exactement.
Même en famille.
Ah ouais. Ouais, exactement. Et puis c'est génial. Enfin, vraiment. Et au-delà du fait d'être génial, c'est tellement simple. Enfin, je veux dire, nous, cette famille, on a échangé quelques mails, quelques WhatsApp, on a fait un Skype et c'était OK. Et on s'est toujours senti en confiance. On n'a jamais eu de scrupules à leur laisser la maison, la voiture. Et eux, ça a été pareil de leur côté, quoi. Ça a été très, très simple.
Ouais, ça dépend des personnes avec qui tu fais l'échange, mais ça peut être... Quand t'es sur la même longueur d'onde, on va dire.
Absolument, ça peut être aussi simple que ça.
C'est dingue. Et donc là, vous avez gardé votre maison près de Lyon. Et
ouais.
Vous avez en plus loué, donc vous louez en ce moment une maison, c'est ça, près de Auckland.
C'est ça, on est près de Auckland. Ouais, absolument, en location.
Génial. Et comment est-ce que vous envisagez du coup l'avenir un petit peu? Est-ce que vous dites, ben voilà, on va rester là X mois et après on rentrera? Ou est-ce que vous voyez un peu avec ce qui arrive, quoi?
Ouais, alors justement, parlons-en de ce qui arrive. On est quand même au moment où on se parle en pleine crise du coronavirus. Vous en France, vous êtes en confinement. Nous ici, pareil, c'est le lockdown depuis plus de deux semaines. Donc, depuis le début, on se dit que finalement, avec cette truc incroyable qui est en train d'arriver partout dans le monde, moi je me dis tout a l'air de pouvoir arriver. Donc je j'arrive même pas à me projeter, je ne sais pas en fait. Voilà. Moi du coup depuis qu'on est arrivé ici, j'ai trouvé du travail dans une agence de voyage francophone. Donc j'ai commencé à bosser il y a 4 mois pour eux. Ça se passe super bien, sauf que bosser en ce moment pour une agence de voyage alors que les frontières sont fermées, bon, c'était pas le meilleur moment. Donc je ne sais pas, je bosse encore mais en fait je ne sais pas, je franchement on est à ce stade là où je pense qu'il faut baisser les armes et dire bon, en fait on ne sait pas, voilà. Donc écoute, chaque jour qui arrive, ben voilà, pour l'instant moi j'ai mon job, il est quand même normalement assuré encore pour les 3 prochains mois parce qu'on a des aides de l'État là pour les 3 prochains mois, donc je sais que j'ai mon job. Il y a aussi un truc important au-delà du fait que ce job m'apporte un salaire, c'est que ce job c'est nos visas en fait. Mon employeur me sponsorise, donc aujourd'hui avec ce job j'ai mon visa de travail, il y a le visa de travail de mon conjoint et le visa étudiant de mes enfants.
D'accord.
Donc si je perds le job, je perds le visa et on perd les visas. Donc il faudrait repartir de zéro, mais peut-être d'ailleurs, enfin tu vois, vraiment, c'est aujourd'hui, ça fait partie des options, peut-être qu'il va falloir qu'on rentre en France. Très franchement, ce serait hyper frustrant parce que notre expérience ici serait très très écourtée et ça se ferait malgré nous, quoi. Mais en même temps, si on est sérieux, finalement c'est pas le bagne, on a une maison qu'on adore en France, nos familles, nos amis, on sera ravis de les retrouver. Voilà, c'est absolument envisageable, quoi. Voilà. Mais ce qu'on souhaite, voilà, dans l'absolu, on aimerait rester ici. On a encore beaucoup de choses à vivre ici et plein de choses à voir ici en Nouvelle-Zélande.
Petite question, bah justement, on parlait du coronavirus et de ce confinement. Est-ce que tu penses que cette crise va permettre en fait de nous remettre en question, et en tout cas remettre en question nos modes de vie, nos modes de consommation? C'est une question qui est un petit peu, qui n'a rien à voir avec le voyage, mais que voilà, on peut se poser cette question, quoi.
En fait, bien sûr que j'aimerais qu'on se la pose, tu vois. D'ailleurs, il faudrait que je me la pose d'ailleurs pour moi-même la première, tu vois. J'aimerais croire que tout ça est un sacré appel du pied de la Terre qui nous dit, écoutez, là, vous êtes sympa, mais soyons un peu raisonnables. Après, celle qui te dit ça, elle a fait je sais pas combien de bilan carbone en 2019 entre la Thaïlande et la Nouvelle-Zélande, tu vois. Donc en fait, j'aimerais croire que effectivement, parce que quand même là on est en plein dedans, donc on perçoit pas encore le séisme que ça va être, notamment d'un point de vue purement économique et social. J'aimerais croire vraiment que ça va permettre de repartir sur d'autres bases, des bases peut-être plus saines. Tu vois, moi, dans tous les thérapeutes que je côtoie avec la petite voix, on parle beaucoup de spiritualité et tout ça. Moi, j'espère que le monde va devenir plus sage et plus spirituel dans le bon sens du terme. Quand tu me poses la question, ça me rappelle autre chose que me disait beaucoup cet astrologue Jean-Pierre Neveu quand j'étais malade. Il m'a tout de suite dit que on pouvait pas créer sans détruire et qu'il faut parfois passer par des moments de petite mort pour bien renaître. Et peut-être que c'est ce qu'on est en train de vivre. Voilà, j'ai envie de croire ça. Donc c'est dur, voilà. Donc on est obligé de passer par des moments hyper durs. Enfin, je veux dire, c'est compliqué et je pense qu'on n'a encore rien vu. J'aimerais être optimiste, mais la réalité, c'est que ça ne l'est pas. Là, cette crise de coronavirus, elle est quand même d'une violence extrême. Mais peut-être que ça va nous obliger à réfléchir et à faire les choses autrement. Et si c'est le cas, eh ben, tant mieux. C'est qu'on aura appris de ça. Tous. Je trouve que ce que l'on vit actuellement, c'est quand même passionnant à observer. Enfin, moi, franchement, ça me fascine. Alors, pardon, le mot est mal choisi, parce que bien sûr que dans ce dont on est en train de parler, il y a quand même des gens qui sont en train de mourir, donc c'est terrible. Mais c'est fascinant. Tu vois, ne serait-ce que moi, j'adore observer les réactions des uns et des autres, les miennes aussi, celles de mon entourage, parce que ça réveille des peurs archaïques, enfin... en fait, ça réveille des choses hyper fortes chez tout le monde, mais dans un bon côté ou moins bon, hein, qu'importe. Mais ça nous laisse jamais insensibles et ça nous fait tous réagir très fort et ça dit beaucoup de qui on est. Je trouve ça hyper intéressant.
Exactement. Bon, et du coup, on arrive sur la question de la fin.
Oh oh.
Ouh là là. Du coup, le podcast s'appelle De vraie vie. Qu'est-ce que ça t'évoque pour toi, la vraie vie?
En fait, la vraie vie pour moi, c'est le cheminement, parce que la vraie vie, je ne sais pas s'il y a une finalité en fait, parce que, ou en tout cas, on ne la connaît pas. J'ai l'impression qu'on n'y accède pas, en tout cas dans notre vie ici incarnée. Mais du coup, pour moi, la vraie vie, c'est de cheminer, quoi. Voilà, et de et peut-être que c'est pas les vraies vies, c'est pas les vies confortables en fait, tu vois. C'est par contre des vies avec où tu te prends des trucs dans la figure, tu apprends des choses, tu grandis, tu évolues en fait. Voilà, pour moi la vraie vie c'est le cheminement, plus qu'une vie pépère, un peu rangée et un peu planquée. Voilà, la vraie vie c'est ça. C'est pas les vies les plus simples ni les plus faciles, mais c'est certainement les plus enrichissantes.
Super. Merci beaucoup, Herbeline.
Je t'en prie, Anastasia, merci à toi de m'avoir accueillie.
Merci d'avoir écouté cet épisode de De vraie vie. J'espère qu'il vous aura grandement inspiré et aidé dans votre propre processus. Si vous avez aimé l'épisode, laissez-moi un commentaire sur iTunes et abonnez-vous pour ne pas louper les prochains. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux, principalement Instagram, @devraievie, mais aussi Twitter ou Facebook. À très vite!